sexy.
Taxi Brousse, la technique ce soir, Gilles Chevreux, Hélène Froin, réalisation Francis Lefebvre, en micro Sylvie Coma. Bonsoir le monde, bonsoir l'Afrique. Alors ce soir, je vous invite à troquer le Taxi Brousse contre un pouce-pouce malgache, parce qu'effectivement, cette nuit, on va suivre Maraval, le tireur de pouce-pouce à Madagascar. Une histoire vraie qu'ont filmé Jacques Lombard, Michel Filou, qui sont avec nous ce soir. Bonsoir. Une vidéo que vous allez présenter au prochain festival, au prochain FIDEM. Il faudra peut-être rappeler ce que c'est. FIDEM, c'est une sorte de festival international du film d'aventure. C'est un peu ça. Hein.
Je crois que c'est le festival international de l'image et du film d'aventure.
Voilà, c'est ça. Et qui, en l'occurrence, cette année, se déroulera du 4 au 9 avril. Alors, votre film, qui s'intitule « Le divorce d'un tireur de pouce-pouce ». Alors, je vous invite à entrer un petit peu dans le film, tout de suite, pour commencer, avec un extrait de la bande originale du film.
Voilà 10 ans, Mahavel, mon fils, tu es parti à Tuléar pour chercher du travail. Tu es devenu tireur de pouce et grâce à toi, nous avons pu acheter des bœufs. Puis tu t'es marié là-bas, et depuis 4 ans, nous n'avons plus rien reçu, même pendant la grande sécheresse. J'ai même fait le voyage à Tuléar pour te demander de l'aide. Ta femme mariée, donc tu n'as pas d'enfant, m'a fort mal reçu et je suis reparti les mains vides. Aujourd'hui, tu es là, au village, et nous te disons ceci, ta mère et moi. Si tu choisis de divorcer, reçois notre pardon, sinon tu n'entreras pas dans le tombeau familial. Mahavel vient d'annoncer aux aînés de la famille sa décision de divorcer et offre un bélier pour le sacrifice qui va sceller la réconciliation avec son père. J'ai quitté le village après les funérailles de mon grand-père. J'avais 20 ans. Je devais gagner de l'argent pour reconstituer le troupeau décimé à sa mort. Ces funérailles ont duré plus de 2 mois. La famille a dépensé 40 bœufs dont 18 ont été sacrifiés. Les autres servant de salaire pour la construction du cercueil et du tombeau. Pour nourrir les invités, nous avons donné 400 boucs, acheté 3 tonnes et demie de riz et plusieurs sacs de 100 kilos de sucre. Tous les membres de la famille ont contribué aux dépenses, mais malgré cela, le parc s'est vidé. Alain, Jacques Lombard, Michel Filou, où sommes-nous? Nous sommes à, bon, partons à la poursuite de Mahavel, ça tout le monde l'aura compris, le tireur de pouce-pouce, mais là on n'est pas à Tananarive, on est où?
Alors on est dans le sud-ouest de Madagascar. On est parti dans un village en tendrouille, un village d'éleveurs de bœufs. On est parti avec, on a accompagné Mahavel auprès de son père, qu'il n'a pas vu depuis un certain temps, peut-être 2 ou 3 ans. Et Mahavel est accompagné par sa femme, Marée, qui l'a épousée depuis donc environ 3 ou 4 ans. Marée est une femme un peu plus âgée que Mahavel. Et comme son père le lui reproche, Marée ne peut pas avoir d'enfant. En tout cas, Marée ne peut pas avoir d'enfant avec Mahavel, parce que Marée a déjà eu un enfant avec un précédent mari. Bon, nous arrivons dans le village, c'est la saison sèche. Il y a quelques bœufs dans un parc, une toute petite maison de dimensions très, très, très modestes, peut-être de 2 mètres sur 2 mètres. Une large natte est étalée au sol et il y a une calebasse dans un coin de la pièce, calebasse dans laquelle on versera le lait. Mm-hmm. Et il y a par ça très peu d'autres objets. Bon, et nous sommes donc accueillis par le père de Mahavel, qui est un homme d'une cinquantaine d'années, 50-55 ans, qui porte sur la tête une bosse de zébu évidée. Et le père de Mahavel paraît de méchante humeur. Nous ne comprenons pas pourquoi. Et soudainement, le conflit éclate. La colère du père de Mahavel s'échappe de lui. Et nous apprenons qu'en fait, il reproche à son fils d'être parti depuis déjà un certain nombre d'années et de n'avoir pas rempli sa mission, c'est-à-dire de ne lui avoir pas permis de remplacer les bœufs que lui-même avait dû dépenser lors de l'enterrement de son propre père.
Voilà, c'est ça. Et c'est en fait de là que naît tout le film. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que c'est un petit peu une fiction, en tout cas que vous aviez prévu de filmer ça, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque vous avez suivi Mahavel dans son village, mais c'était tout à fait, bon, pour autre chose, pourquoi pas, quoi. C'était pour voir d'où il venait, c'est ça, pour voir un peu quelle était sa famille, et paf, vous tombez dans cette histoire que vous n'aviez pas prévu. Ça, il faut vraiment insister là-dessus, parce qu'on a un peu l'impression que c'est effectivement une fiction très romanesque.
On savait que Mahavel avait des rapports difficiles avec son père, puisqu'il ne lui envoyait plus rien, et puisque lui-même avait envie de mieux vivre, et en fait de dépenser un peu l'argent qu'il gagnait à Tuléar. Et donc on l'avait accompagné là-bas, c'était pour lui une occasion de retourner voir sa famille, parce que dans le film qu'on faisait, on souhaitait montrer justement son village, mm-hmm. montrer son père et puis sa mère, ses parents. Et on a été... les images que l'on voit dans le film, on les a tournées une demi-heure après notre arrivée. Son père l'a très mal reçu. Et je dirais presque nous, quasiment nous-mêmes, sur l'instant. Et puis, lui a fait cette déclaration, ou tu divorces, ou alors je te chasse. En fait, c'était ça. Ce qui était très, très émouvant, c'est que sa femme était présente et qu'elle a reçu ça en pleine figure aussi. Elle était un peu abasourdie, tout le monde, et ça a duré 2 ou 3 heures, hein, je crois. Alors nous, on s'était retirés, et on a filmé juste l'attente. C'est-à-dire le temps que Mahavel a mis à se décider, à divorcer. Mmh. Il était seul avec lui-même, entouré par ses jeunes frères, je crois. Sa femme était derrière avec ses sœurs ou les femmes de sa famille. Et puis à un moment, il s'est levé, lentement, doucement, sans bruit. Il a été voir les aînés de sa famille, c'est-à-dire les aînés de son père. Et puis il leur a parlé à voix basse. Elle leur a dit qu'il acceptait de divorcer. En fait, il acceptait la loi de son père.
Alors effectivement, cela peut paraître étonnant de voir un homme qui n'est pas tout jeune, puisque Mahavel a quand même 35 ans, à peu près, se plier comme ça aux volontés de son père. Il est évident que Mahavel était comme un enfant vis-à-vis de son père. Il n'était pas question qu'il refuse la loi, mais il n'avait pas son mot à dire, et il n'avait pas à dire justement qu'il vivait bien avec Marée. Il était heureux avec Marée, il aimait bien Marée. Il ne pouvait pas le dire, c'était une opinion personnelle qui était irrecevable. Bon, et ça c'est quelque chose de tout à fait important pour la suite de l'histoire, de comprendre cette relation entre ces deux générations. Tant que le père est vivant, le fils reste indépendant.
Et en l'occurrence, le fils, c'est un tireur de pousse-pousse à la ville. Et c'est ça qui est très fort dans ce film, c'est cette apposition entre le village, toute sa force, ses lois, sa hiérarchie, les choses qu'on fait, les choses qu'on ne peut pas faire, et puis en face, la vie d'un tireur de pousse-pousse à la ville qui, lui, ne fait que tirer des pousse-pousse, et encore, il est bien content quand il peut le faire, parce que des pousse-pousse, il y en a de plus en plus, et de moins en moins de travail, c'est un peu ça. Vous avez discuté après, j'imagine, avec Mahavel, du sens de cette relation qu'il a avec son père, etc. C'est en même temps une forme, pour lui, une sorte de noblesse. Heureusement qu'il a encore un père comme ça.
Oui, bien sûr. Non, mais Mahavel ne peut pas vivre sans son père, si j'ose dire. C'est-à-dire, il ne peut pas vivre en conflit avec son père. On l'a très bien compris. Et même s'il restait à Tuléar, la communauté enfin, dans laquelle il vit, celle des tireurs de pouces, et celle même plus largement des gens de la même région, du pays en tendrouille, l'exclurait de ce fait, hein, s'il était un mauvais fils. Donc il ne peut pas se permettre. Mais ce qu'on avait voulu faire au départ, dans ce film, c'était de montrer comment un jeune homme comme ça, qui venait d'un pays où la vie est très dure, où vraiment, je dirais même, le moindre verre d'eau a toute sa valeur, on le voit dans le film, la moindre goutte de lait, enfin, le moindre morceau de racine de manioc, etc., où vraiment ces gens arrachent leur nourriture à la terre, eh bien, se trouvant en ville, vivant malgré tout un peu mieux, même comme tireur de pouces, l'envie qu'il avait, en fait, d'essayer de mener une autre vie et puis de jouer son destin personnel. Et au fond, c'est un peu ça le film qu'on voulait faire au départ. On ne pensait pas qu'il y aurait ce divorce. On pensait que Mahavel et Marie, bon, vivraient toujours ensemble, au fond, puisque c'est qu'on les avait connus tous les deux. Et puis on est tombé dans ce drame, disons, à l'occasion de ce voyage. Et c'est là où on a découvert que vraiment, c'est très difficile pour un garçon de 35 ans, un grand garçon, un fort garçon de 35 ans, qui a toute sa tête, eh bien, qui était comme un petit gamin devant son père, de pouvoir mener, de faire ses propres choix, et de pouvoir mener sa vie, de vivre peut-être un peu mieux, de se payer des petits plaisirs, et tout ce qu'on peut trouver à la ville, qu'un paysan ne peut pas trouver dans son village.
Alors, Jacques Lombard, Michel Fiello, Racontez-nous encore ce drame que je dirais à trois personnages, à savoir, bon, disons de façon emblématique, le père ou bien le grand-père, le tireur de pousse-pousse, et puis j'ai envie de mettre au milieu le bœuf. Vous disiez tout à l'heure qu'en fait, l'histoire du tireur de pousse-pousse a été celle de son père, celle de son grand-père.
Non, peut-être pas celle de son grand-père, mais en tous les cas, celle de son père, parce que le père de Mahavel était parti pendant plusieurs années, non pas à Tuléar, mais dans une autre ville de Madagascar. Il avait travaillé comme tireur de pousse, il avait également travaillé comme salarié agricole dans une grande plantation, et il est revenu au village, et lorsque son fils aîné a pris le relais. Bon, donc tout le monde est très très conscient. Je veux dire, quand le père de Mahavel proteste en voyant que son fils n'arrive pas à épargner quelques sous pour acheter des bœufs, il est néanmoins très très conscient de la difficulté de la chose. Il l'a vécu lui-même. Bon, ça c'est très important.
Bon, ça fait partie de l'épreuve ou quoi?
C'est une épreuve nécessaire, puisque le travail que les paysans en tendrouille, les éleveurs en tendrouille peuvent trouver à la ville ou dans les... C'est effectivement un travail de tireur de pousse ou éventuellement de manœuvre, ou bien de travailler dans les plantations comme salarié, comme il y en a de plus en plus sur la côte ouest. Bon, mais cela signifie un revenu mensuel très maigre. Bon, si le revenu mensuel d'un tireur est d'environ... 4 courses par jour en moyenne à raison de 200-250 francs la course. Bon, un revenu mensuel donc très, très maigre, que les tireurs doivent nécessairement compléter par un autre travail.
Qu'est-ce qu'ils font par exemple ?
Eh bien, ils sont notamment gardiens de maison. Gardiens de maison la nuit et tireurs le jour. Tuléar est une ville très calme à partir de 6h30 du soir, dès que la nuit tombe. Et vraiment, ils sommeillent plutôt dans leur taxi, la lampe tempête allumée en attendant. Mais... Donc ils préfèrent, et de loin, trouver un travail comme gardien de nuit qui leur assure quand même des revenus à peu près équivalents à ceux de tireurs de pousse.
Et ils peuvent comme ça mettre de l'argent de côté?
Ils arrivent à mettre de l'argent de côté. Mais en mangeant les nourritures les moins chères, du manioc, bouilli, très peu de choses. Pas de riz tous les jours, par exemple, pas de viande.
Il faut dire Mahavel au début, moi c'est la chose qui m'avait la plus frappée. Quand il nous racontait, quand il a commencé à faire son métier de pousse-pousse, le matin il partait à l'aube. Hein. Selon la saison, c'est entre, disons, 5h30 et 6h, 6h15. Bon. Il partait à l'aube. Et il prenait pour tout repas, petit déjeuner, un bol d'eau. Et jusqu'à midi, parce qu'il revenait à midi ou 11h30 pour déjeuner chez lui. Donc sa femme lui avait préparé quelque chose, il ne mangeait rien.
Et sa femme, alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle faisait comme travail?
Les femmes, elles peuvent faire plusieurs petits métiers, soit si les gardiens, c'est elle qui fait la gardienne, en fait, qui est là, c'est-à-dire qui dissuade par sa présence, etc. Elle peut vendre, comme faisait Marie, on l'a vu, elle vendait du café, elle faisait du café, elle mettait dans des thermos, et puis il y avait des gens du quartier qui venaient s'asseoir sur un banc, là, et puis bavarder avec elle. C'était une femme intelligente qui avait une conversation agréable, et il y avait beaucoup de gens qui venaient pour le plaisir de la voir.
Font griller des patates douces qu'elles vont vendre au marché.
Sous la cendre. Mille petites activités, ce qu'on appelle dans les publications d'économistes tout le secteur informel. Bon, et on gagne. Elle vendait quelques cacahuètes aux enfants qui passaient, etc. Il y a toujours une petite activité qui permet de gagner un peu de sous.
Et parfois trop dépenser, puisque c'est ce qu'on lui reproche, d'où le divorce de l'histoire.
Oui, elle accumulait beaucoup. Et c'était fantastique d'ailleurs, parce que bon, on a mené une enquête, c'est pas le mot en fait, on a demandé à Marie de nous raconter sa vie, et comme à Mahavel, donc on a beaucoup discuté avec eux, et en fait, c'est Marie, je crois, qui nous a raconté, je me souviens plus si c'est elle ou Mahavel, Michel, qui nous a raconté que justement, elle avait accumulé des cuillères et des cuillères, des fourchettes, des jeans, et qu'au moment où ils ont divorcé, d'ailleurs, elle espérait bien que Mahavel lui achèterait un parapluie. et un parapluie qui sert là-bas de parasol. Et pour les femmes, c'est le comble de l'élégance, quand le soleil tape, c'est de pouvoir se promener comme ça dans les rues.
Mais quel peut être le désir, l'avenir de la femme d'un tireur de pousse-pousse? Bon, le désir du tireur de pousse-pousse, c'est de mettre de l'argent de côté pour construire un beau tombeau pour son père. Mais sa femme, ce qu'elle peut faire, elle?
Je pense que c'est justement le problème que pose Marie. Parce que la femme d'un tireur de pousse doit normalement aider son mari à épargner.
À construire le tombeau.
À construire le tombeau.
C'est une femme économe.
C'est une femme économe.
Les images de
gestion, quoi.
Oui, de gestion du ménage.
Elle doit absolument savoir gérer son ménage. Elle doit dépenser le moins possible. Ne pas, par exemple, ne pas aimer manger du riz. Ne pas utiliser trop de savon en se lavant, etc. Vraiment,
tout
faire
calculé.
Au minimum.
Tout calculé.
Et tout est calculé. Il y a des recettes, il y a des trucs qu'on s'échange entre femmes, j'imagine, non?
Vous savez, les recettes, la cuisine est extrêmement simple. Alors,
pour ne pas
dire ça. Ah oui, bien sûr.
Pour faire avec rien.
De toute façon, cette qualité de la femme qui est de savoir donc gérer son ménage n'est pas propre à la femme en tendrouille, parce qu'on la retrouve dans toutes les sociétés d'éleveurs du sud-ouest, Maseko, Sakalav. Bon, une femme dépensière n'est pas une femme à épouser, parce que précisément, elle oublie que la valeur numéro un, c'est le bœuf et pas autre chose.
Ouais. Je suis très contente qu'on revienne sur ce bœuf, parce que moi, depuis le début, je sens vraiment très présent. On n'en parle pas assez, je trouve. Parce que le bœuf, finalement, on le retrouve partout. On le retrouve même dans les pousse-pousse, parce que l'homme se transforme vraiment en bœuf. Il y a des images dans votre film qui sont vraiment très choquantes. C'est bien que vous les ayez montrées, parce qu'on voit vraiment le pouce, là, avec sa toile bâchée verte, et puis les deux jambes de l'homme, deux jambes qui sont là par accident, on a envie de dire. Et vous êtes montée déjà dans un pousse-pousse?
Oui, je suis montée dans un pousse-pousse après le tournage du film, parce que précisément j'ai bien compris que c'était tout à fait nécessaire pour la survie d'un tireur de pousse d'avoir des clients, et que la vue d'un tireur de pousse me touchait profondément. Je m'y voyais mal m'y installer. Cela me troublait, mais ensuite, non, j'ai pris au contraire des pousses presque tous les jours, et je connaissais, après le tournage de ce film, on connaissait presque tous les tireurs de pousses, et il était,
oui,
c'était venu
sens,
d'ailleurs
il,
très...
Il n'aurait pas très bien compris que quand on était à pied dans la ville, comme ça,
oui.
Ça nous arrivait souvent,
oui.
Qu'on ne prenne pas un pouce pour rentrer. Bon, ça leur semblait quelque chose d'évident.
Oui.
Et nous, ça nous a semblé évident, ça nous gênait plus à la fin.
Donc, on a donc le bœuf, là, presque sanctifié, le bœuf qu'on retrouve dans le lieu rituel du caveau, dont vous ne nous avez pas parlé, il faudrait que vous les décriviez tout à l'heure, vous avez pensé. Et puis, on a cet homme qui tient un pouce-pouce, c'est quand même le monde à l'envers, malgré tout. Et cet homme qui tire un pouce-pouce en plus pour pouvoir abattre des bœufs pour l'enterrement de son père.
Oui, mais parce que là, on entre dans un domaine qui est...
n'est pas le nôtre.
Oui, et puis qui est très fort, c'est que toutes les idées qu'on a de la mort dans ce pays sont très très importantes, et la préparation de la mort, et la dignité de celui qui est défunt, et le respect dont on l'entoure, est quelque chose qui est ancré profondément encore dans les esprits, et qui fait que je crois que la chose la plus frappante, c'est de voir ces immenses tombeaux en pierre, en maçonnerie, et selon les régions, très richement décorés, par opposition aux maisons qui sont très petites. C'est vrai que la maison sert juste d'abri pour dormir, et que la plupart du temps on vit dehors, on reçoit dehors, on fait la cuisine, on mange dehors, et que donc il faut voir la maison et aussi tout ce qui est autour. Mais quand même, la maison est en bois, elle est périssable, elle est le transitoire de la vie, alors que la mort doit être un lieu très profondément ancré dans le paysage à travers un tombeau magnifique, et qui parle au regard, et qui parle, je dirais même presque aussi, à l'envie, enfin, puisqu'il faut, chacun veut que son parent défunt ait le tombeau le plus riche, enfin, qui marque la puissance du groupe auquel il appartient, et donc sa richesse en bœufs, puisque pour construire un tombeau, il faut vendre des bœufs, il faut en offrir, il faut en sacrifier, ceux dont on mettra dans certains cas, enfin, peut-être pas dans cette région d'ailleurs, mais dans d'autres régions, on dépose les bucranes, les cornes sur le bœuf pour marquer tous les bœufs, sur le tombeau, pardon, pour marquer tous les bœufs qui ont été sacrifiés à cette occasion. Et quelquefois, il y a 20, 30, 40 bœufs crânes alignés sur les tombeaux.
Donc en fichant l'air,
quelquefois,
comme un seul coup, toute sa fortune.
Autrefois, oui. Qu'autrefois, c'était fréquent d'abattre tout un troupeau. Maintenant, ça se fait quand même moins, de moins en moins. Mais on continue à... Ça dépend des familles, ça dépend de la richesse des familles. On continue à abattre un grand nombre de bœufs. Et aussi parce que les parents qui sont invités... Vous savez, les gens sont liés par des règles. Il y a des dettes dans les familles qui se transmettent. Et on a reçu un bœuf à l'occasion de telle funéraille, on doit en donner un autre à l'occasion de telle autre funéraille, et ainsi de suite, et ça n'en finit pas. En sorte qu'il y a toujours des bœufs qui arrivent, et des bœufs que l'on doit, des bœufs que l'on reçoit, et d'autres que l'on doit donner. Et c'est ça qui crée des liens très forts entre tous les gens d'une même région, et c'est ça aussi qui les garantit. On n'est jamais seul, puisque dans sa famille, on a toujours des tas de bœufs à recevoir, mais aussi à donner. Donc, si vous voulez, c'est là où la solidarité vous préserve aussi. Mmh. Et c'est dire toute l'importance du bœuf. D'ailleurs, je ne sais pas, on pourrait rappeler combien le bœuf est important à travers cette formule où on peut aller jusqu'à dire... on emprunte souvent des qualificatifs... on utilise des qualificatifs empruntés au bœuf dans le langage amoureux.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Oh, on peut dire à une femme qu'elle a l'odeur d'un... Oui.
qu'elle a une bonne odeur.
Une bonne odeur.
Une odeur de vache, oui.
Et c'est un vrai compliment. Enfin, c'est le compliment du désir.
Bon, j'ai cru comprendre que vous êtes resté plusieurs années à Madagascar. Vous y êtes allé en tant que chercheur, je crois. Ça
oui, en tant que chercheur, dans le cadre d'une convention qui a été signée entre le ministère malgache de la recherche et de la technologie pour le développement et l'office l'ORSTOM, l'Institut français recherche scientifique en coopération. Et qui, en fait, le but de cette convention était justement à travers l'étude de l'élevage, qui est la ressource principale dans l'ouest et le sud-ouest malgache, de mettre en place un petit centre de recherche à Tuléar, à partir d'une équipe mixte de chercheurs malgaches et donc français, dont nous étions trois chercheurs français et une quinzaine à peu près de chercheurs malgaches, puisqu'il y en a deux ou trois qui nous ont rejoints un peu plus tard. Et donc, on a passé trois ans à Tuléar pour mener ce travail, essayer de mener ce travail à bien. Mm-hmm. Et en développant toute une étude sur l'élevage, qui doit aboutir à un certain nombre de publications, d'ailleurs, actuellement, sur lesquelles nous travaillons, en plus des films que nous avons faits en vidéo, parce qu'il n'y a pas simplement le divorce...